Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Copy Service.
On va apprécier le niveau de l'enseignement, le niveau de l'enseignement primaire et secondaire pour bon nombre d'observateurs a connu une forte baisse et c'est sur regard du taux faible de réussite enregistré par rapport à l'examen d'État édition 2013 pour bon nombre d'observateurs. C'est une véritable illustration de cette baisse du niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Qu'il faut-il faire pour relever, pour nous relever? C'est avec notre invité Fabien Bouitou, qui est l'annonce, directeur provincial de l'FSP King West, qu'on va développer cette question. Monsieur Fabien Bouitou, qui est l'annonce, rebonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, on parle, en tout cas, pour bon nombre d'observateurs, il y a un problème par rapport au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. On constate une véritable baisse, il y a de moins en moins de réussite, c'est le cas, qui est arrivé lors avec ses taux faibles, hein, lors de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2013. Est-ce qu'il y a des pistes, des solutions qu'on peut déjà envisager pour arriver, tant soit peu, arriver à les niveaux de l'enseignement primaire et secondaire à l'heure d'ici?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que parler de la baisse du niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel serait tout à fait n'est pas évolué dans le même contexte avec nous. Je ne peux pas vous dire que c'est le niveau a baissé à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Si, par exemple, il y a faiblesse des réussites à l'examen d'État, certainement il y a des paramètres qui ont influé sur ces résultats. Mais il ne faut pas directement lier ça à une quelconque baisse du niveau de l'enseignement.
Ça, c'est pour bon nombre d'observateurs. Ce n'est qu'une illustration. Bon nombre d'observateurs pensent que là, c'est une preuve seulement qu'il y a beaucoup à redire par rapport à la qualité de l'enseignement à leur baisser au niveau du primaire et du secondaire.
Merci beaucoup. Peut-être que vous auriez dû évoquer l'élément qualité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La qualité des apprentissages que nous donnons à nos enfants. Une chose est vraie, monsieur le journaliste. En 2007, oui, son Excellence, Monsieur le Ministre, Mathieu Nwangu Kamba, dès qu'il est arrivé, il avait mis en place une équipe de consultants avec l'appui de partenaires du gouvernement. Et ces consultants avaient mené une étude qui avait conduit à ce qu'on puisse réaliser un diagnostic organisationnel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Au terme de ces diagnostics, il avait effectivement été retenu qu'il y avait un problème, d'abord un, avant la qualité, il y avait un problème d'accès. Les enfants ne venaient pas, n'allaient pas nombreux à l'école. Et deux, il y avait un problème par rapport à la qualité. Et que certains enfants ne savaient pas très bien lire, il y avait un problème de manuel, il y avait un problème de la formation des enseignants. Et les trois, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait aussi un problème de la gestion des établissements scolaires. Et au terme de cette étude, de ce diagnostic, plutôt après ce diagnostic, il avait été mis en place une stratégie. La stratégie du développement du sous-secteur de l'ETSP. Cette stratégie qui a été acceptée par le gouvernement de la République était devenue un outil de travail. Notre boussole à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour booster les valeurs éducatives et pour faire évoluer notre enseignement.
Et quelles sont les grandes lignes de cette stratégie absolument?
Merci beaucoup. Les grandes lignes de stratégie sont, il y a d'abord un, l'axe stratégique, l'accès, dont il y a dedans l'accessibilité, le maintien et le gender, c'est-à-dire l'équilibre entre les filles et les garçons. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements, de l'enseignement et des apprentissages. Je pense que c'est l'axe qui nous concerne. Et le troisième, c'est l'axe lié à la gestion, à la gouvernance. Et c'est là où interviennent aujourd'hui la co-gestion, le partenariat dans la gestion de l'éducation. Vous comprendrez que par rapport à la qualité, étant donné que nous, nous sommes enseignants, nous sommes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, nous devons aborder des situations et des facteurs pédagogiques en lien avec la qualité de l'enseignement. C'est ce qui nous intéresse, nous. C'est-à-dire les situations et les facteurs pédagogiques en lien avec la qualité de l'enseignement. Et là, dans la stratégie, il était question que nous puissions disponibiliser les manuels scolaires au niveau du primaire d'abord. Nous avions accordé une priorité à l'enseignement primaire et c'est dans le but aussi de répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. Vous avez constaté que nous avions distribué des manuels dans toutes les écoles primaires. Ce qui fait défaut dans d'autres pays, le ratio élève-manuel est souvent faible, le ratio
toutes les écoles avaient bien reçu ces manuels, vous êtes assuré que tous.
Je vais le confirmer, monsieur le journaliste. Les manuels ne sont pas distribués gratuitement, comme dans d'autres pays, mais chez nous, les manuels ont été distribués gratuitement. Le ratio manuel-élève est de 1, il y a même des réserves, donc chaque élève a un manuel de la première année jusqu'en quatrième année primaire. Et maintenant, je vous parle de lots supplémentaires qui sont en train d'être entreposés dans toutes les sous-divisions pour couvrir des besoins qui tiennent compte de l'évolution des effectifs durant ces deux dernières années. À part ce manuel, il y a la mise à jour de matériel didactique. Beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis parce qu'en fait, nous avons aujourd'hui et des supports pédagogiques qui sont en train d'être distribués. Nous avons aujourd'hui des planches de dessin qui sont en train d'être distribuées et beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses qui sont en train d'être mises à jour des établissements scolaires pour que les écoles puissent fonctionner normalement. On avait institutionnalisé le paiement des frais de fonctionnement. Les écoles primaires bénéficient régulièrement des frais de fonctionnement pour leur permettre d'acquérir le matériel didactique qui manque et que l'État ne met pas à leur disposition jusqu'à ces jours. Les
enseignants,
les facteurs pédagogiques liés à la qualité. Oui, il y a les enseignants.
Oui.
Son Excellence, Monsieur le Ministre Matière Mwangu Famba, dès son arrivée, il avait transformé toutes les écoles primaires, toutes les écoles secondaires en centres de formation pédagogique. Aujourd'hui, un enseignant recruté n'a pas besoin d'être formé en dehors de son école dont il travaille. L'école, étant donné qu'elle est devenue une cellule pédagogique de base, elle est dotée de compétences capables de former les enseignants nouvellement recrutés. Et ces jeunes enseignants qui, au départ, naviguer à vide, ils n'évoluent plus seuls avec leurs difficultés pédagogiques. Ils sont pris en charge par des enseignants expérimentés. Cette stratégie avait déjà produit des fruits et nous allons peut-être donner les éléments après. La scolarisation en langue nationale. Je vous donne les facteurs mondialement reconnus liés à la qualité. On dit la scolarisation en langue nationale. Vous comprendrez avec nous, tout récemment, son Excellence avec l'OIF ont lancé ce qu'on appelle les projets ELAN, l'éducation en langue, l'enseignement en langue nationale. Ce programme est déjà opérationnel. Dans plusieurs établissements, il y a des écoles expérimentales où certains cours se dispensent déjà en cours, en langue nationale.
C'est pas bien, on va excusez-moi le temps pour nous de rappeler à nos auditeurs que nous parlons du comment relever le niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons avec nous, dans ce studio, Fabien Abou, tout est l'amour, qui est directeur professeur de l'FPSP, qui nous reste, vous voulez participer par rapport à cette question, appelez-nous 081-890-6324, ou faites un SMS au 081-711-5001.
C'est le rendez-vous signé de Radio Octopus, le chemin détourné et des infos dépistées à des tendances reliquées de chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Octopus.
Voilà, je disais, on parle de comment relever le niveau de l'enseignement primaire et secondaire avec Fabien Beau, qui est l'agneau directeur professeur de l'EPSP qui nous reste. Appelez-nous si vous avez des témoignages par rapport à ce qui se passe dans les coins où vous habitez, sur ce qui est de l'enseignement primaire et secondaire. Notre invité Fabien Beau, qui est l'agneau directeur professeur de l'EPSP qui nous reste là avec nous dans les studios, dans nos studios, pour répondre à vos questions et préoccupations. Mais dites-nous, M. Fabien, on va poursuivre avec toutes ces stratégies que vous avez mis en place pour améliorer la qualité de l'enseignement et bien entendu réaliser le niveau. Vous avez évoqué des manuels scolaires qui ont été distribués de la première année, primaire à la quatrième année. C'est une bonne chose parce que des manuels scolaires, beaucoup de gens décriaient, ça n'existait presque plus dans les écoles alors qu'à l'époque, il y avait des bibliothèques dans presque toutes les écoles. Mais là, notre fil d'actualité, peut-être cela aussi a contribué à ce que certaines personnes parlent de la baisse du niveau de l'enseignement, parce que l'année dernière, par exemple, il y a des enseignants qui ont abandonné des élèves pour aller chercher leur salaire à la banque avec la bancarisation. Est-ce que vous pensez également que cela a pu jouer un rôle par rapport à la qualité d'enseignement?
Non, je ne pense pas que le mouvement des enseignants vers les banques pour aller récupérer leur salaire a porté atteinte à la qualité de l'enseignement. Absolument pas. Vous savez, l'école est organisée. L'école, c'est une structure très très bien organisée et l'école a une hiérarchie. Il y a une instruction qui avait été prise. Par exemple, pour le cas de la ville province de Kinshasa, où nous sommes, aucun enseignant ne peut aller à la banque retirer son salaire pendant qu'il a cours. Les enseignants qui vont chercher des salaires dans des banques, ils vont pendant qu'ils n'ont pas cours. Ceux qui ont cours les avant-midi, par exemple, vont dans des banques les après-midi. Ceux qui ont cours les après-midi, ils vont dans les avant-midi. Peut-être que le problème peut se poser au niveau de l'intérieur du pays, là où il n'y a pas assez de banques. Mais une chose est vraie, et cette question est en train d'être réglée, mais ça n'a pas affecté la qualité par le simple fait que lorsqu'un enseignant n'est pas allé à la banque, il y a un enseignant de relève qui prend sa place en charge. Et au niveau de la direction scolaire, il y a des cirécoles, il y a un cirécole qui existe, et ce ne sont pas tous les enseignants qui y vont une fois pour toutes. Les stratégies qui avaient été communiquées dès le départ, et déjà c'est que les enseignants y aillent à tour de rôle, tout en ne pénalisant pas les enseignants et tout en n'abandonnant pas les enfants seuls dans des salles de classe.
Voilà, on va poursuivre avec vous par rapport à ces axes stratégiques. On était en train de parler de l'amélioration de la qualité de l'apprentissage. Mais permettez-nous d'abord de donner la parole à Paul Waya qui nous appelle de Guémena dans la province de l'Équateur. Paul Waya, bonjour.
Oui, bonjour la radio.
Alors, on vous écoute, Paul Waya.
Ok, merci. J'ai dit d'abord un coup de chapeau pour le gouvernement, pour tout ce que l'invité qui est au plateau vient de dire. Il a énuméré le manuel scolaire et il a énuméré aussi le déplacement des vagues des enseignants pour venir chercher leur salaire. Mais il doit retenir une chose. Vous savez, monsieur le journaliste, il a dit seulement sur la qualité des enseignements. Mais moi, je dirais ceci, ce n'est pas seulement la qualité des enseignements, mais que le programme ne soit plus mis au terme. Les enseignants n'ont pas terminé leur programme et comment les élèves auront un bon résultat, le résultat escompté. Vous savez, quand les enseignants vont chercher leur salaire, ils mettent au moins 2 semaines pour en avoir. Mais quand on a 2 semaines perdues, comment on peut récupérer ce programme qui est parti? Et la deuxième chose, vous savez, les enseignants sont souvent impayés. Je ne sais pas le sigle MEP. Si l'invité qui est au plateau peut toutefois nous dire ce que signifie le MEP, c'est qu'on n'a pas son salaire. Comment on peut toutefois avoir un bon souci d'enseigner les élèves? Vous savez que le gouvernement pense un peu à cela. C'est un peu ma préoccupation, monsieur le journaliste.
Merci Paul Waya, vous appelez de Guémena dans la province de l'Équateur. Comment réagissez-vous, M. Fabien Boutetelamio, à ce propos de Paul Waya?
Merci beaucoup, M. Paul Waya est assez réaliste. Je pense qu'il a dit des choses qui sont fondées. mais il n'a pas l'information qu'il fallait avoir. Et l'élément par rapport au programme, hein, qui ne sont pas terminés parce que les enseignants sont allés à la banque, je l'ai dit à l'introduction. Je dis clairement ceci, que lorsqu'on a lancé la bancarisation, nous avions pris toutes les dispositions pour sensibiliser le chef d'établissement, pour que le mouvement des enseignants vers les banques soit très bien géré, soit très bien encadré, de telle sorte qu'un enseignant qui va chercher son salaire ne puisse pas laisser les enfants sans travail pédagogique, sans qu'il ne soit encadré ni pris en charge par un autre enseignant. Et c'est comme ça que ces mouvements sont programmés par les chefs d'établissement. Donc il n'y a pas à craindre par rapport au programme, ça n'affecte pas le programme. Dans les établissements scolaires, les programmes sont exécutés à 100% là où les chefs d'établissement mettent du sérieux dans la gestion du temps. Vous savez, un coup de chapeau pour ce gouvernement, ça je l'ai dit sans gêne, sans quoi, je ne suis pas membre du gouvernement, je suis un technicien de l'enseignement. Depuis que ce gouvernement est en place, nous accomplissons le nombre d'années prévues, n'est-ce pas, pour une année scolaire. Selon même les normes, nous dépassons pour certains pays. Parce qu'en fait, vous savez, c'est 1000 heures par an. Il y a des pays européens qui fixent à 1000 heures par an de cours pour une année réussie. Or, nous, parfois, nous allons au-delà de ce nombre d'heures fixées. Donc, les contenus qui sont planifiés, les écoles ont des prévisions de matières qui sont évaluées hebdomadairement par le chef d'établissement et qui sont suivies régulièrement par les instructeurs. Nous n'avons jamais reçu un rapport dans ce sens et nous sommes convaincus que s'il y a un problème d'exécution des programmes dans des écoles, c'est lié peut-être au manque de suivi de certains chefs d'établissement. Mais là où les chefs d'établissement s'y mettent régulièrement, réellement, ils savent suivre et ils vont jusqu'à achever toutes les matières prévues durant l'année. S'il y a des problèmes de rattrapage, s'il y a des petits retards, ils savent. Comment récupérer ces retards. Il a évoqué l'élément par rapport aux enseignants qui sont non payés, comment est-ce qu'ils peuvent travailler. Non, vous savez, nous sommes des responsables à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. On n'évolue pas comme des gens qui ne savent pas comprendre, ils savent pas voir. Nous avions pris toutes les dispositions. Là où il y a des problèmes d'enseignants qui ne sont pas budgétisés, parce qu'en fait, certains enseignants ne sont pas budgétisés. Oui. Par le simple fait qu'ils ont été recrutés après, et par le simple fait qu'il y a des écoles qui ont été créées après, qui ont été créées sans qu'on ne tienne compte du budget. Sans qu'on tienne compte du budget. Aussi longtemps.
C'est des problèmes pour lesquels on sort de solution.
Ce sont des problèmes qui sont en train d'être réglés et ces enseignants seront finalement payés. Ils seront budgétisés et payés.
Voilà.
Pour le cas de ces enseignants, ils ne sont pas abandonnés à leur triste sort.
Il a compris.
Oui, il y a toujours des petites cotisations qui sont organisées au niveau du conseil de gestion,
voilà,
du comité des parents pour qu'ils soient pris en charge.
Nous allons prendre des auditeurs qui sont l'inédit, qui, comment vous appelez, de Lubumbashi, dans Luc Etenga, Nicolas Mabila et Takinchasa, et dit Chikoma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Bon, moi j'ai une question à poser à l'invité au sujet du problème de l'enseignement qu'ils veulent bien donner en langue nationale au niveau de l'école primaire. Je vous donne un exemple. Moi j'ai ma nièce qui est venue de Kinshasa, elle est arrivée cette nuit à Lubumbashi, une semaine après déjà la rentrée scolaire. À l'école, dans les cours de Swahili, elle n'avait que des zéros. Alors qu'elle est une élève très très brillante. Dans les autres cours, elle brillait, mais dans le cours de Swahili, elle faisait des zéros. Et je vous dis, bon, c'est une discrétion, l'enseignant, comprenant que l'élève était intelligent, ou disons intelligente, lui donnait 5 sur 40, au lieu de lui donner 0. Maintenant, Moi, je ne veux pas le sujet, je suis enfant d'un cheminot. Mon père peut travailler partout. Aujourd'hui, je suis en première année primaire, je suis à Lubumbashi. En deuxième, mon père est muté à, prenons le cas, à Kananga. Là-bas, on donne les cours à Chiluba, alors qu'ici, j'ai suivi le cours en Swahili. Vous ne trouvez pas que ça va créer des problèmes dans ce pays. Pendant que le monde devient un village planétaire, mais nous, ici au Congo, nous voulons respirer, parler encore des langues, donner les cours en langue nationale en première, deuxième, troisième primaire. Deuxième question. Que notre invité nous dise un peu, au Congo, il y a combien d'écoles primaires et combien d'écoles secondaires de l'ombre? C'est 22 000, c'est 30 000, c'est 40 000.
Merci.
Et puis, le fait des fonctionnements dont il parle, c'est combien par école? On calcule comment? Parce qu'il y a des écoles qui ont beaucoup d'élèves par rapport à d'autres. Merci beaucoup.
Merci, dit Chikomba, depuis le Lubumbashi, dans le Katanga. Nicolas Mabila, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Nicolas. On vous écoute.
Bonjour, papa. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content de vous recevoir au micro. Et puis, si tout papa va bien, et que j'ai très bien suivi.
Nicolas, déplacez-vous un peu de votre poste de radio. Déplacez-vous,
oui,
là, comme ça on va vous
suivre. Si vous avez parlé du niveau de l'enseignement, à mon humble avis, c'est quelquefois dit aux infrastructures qui sont délabrées. Je prends le cas, par exemple, de mon école à moi. Moi, je suis dans l'enseignement depuis plus de 20 ans. L'école est délabrée. Quand il pleut, les enfants ont des difficultés pour ne plus que se mettre. L'enseignant, qui ne peut pas suivre tous les enfants dans son champ visuel, a des difficultés pour dispenser quoi ça, les enseignements. Ça, c'est un. De deux, nous prenons le foisonnement des écoles privées, les écoles qui ne répondent pas aux normes, ici même à travers la ville. Il y a des écoles. Maison, il y a une maison où nous avons quoi les chambres sont limitées par des rideaux. Les enfants te donnent les rideaux. Je ne sais pas moi de quel type d'enseignement qu'on peut donner dans des pareilles écoles. Tandis que d'autres, j'ai 6 classes, par exemple 3 enseignants. On prend les classes, par exemple, de première et deuxième qui sont tenues par un enseignant, troisième, quatrième, un enseignant, cinquième, sixième, un enseignant. Or, en sixième année, les enfants sont soumis au test qu'on appelle TENAPEP. C'est-à-dire que les enfants de la cinquième passent en sixième année. Quel programme cet enseignant-là va-t-il suivre? Voyez qu'il y a autant de mots. Et puis, il y a des enseignants incomplets. Des enseignants qui ont fait toute une année sans qu'ils soient payés. Vous pensez, messieurs, cet enseignant-là aura quoi ça? Et l'amour est bien dispensé contre les matières. On nous a parlé de manuel, c'est bien. Mais ces manuels-là, qui va les utiliser? C'est l'enseignant, non? Quel est le salaire que cet enseignant-là va recevoir, qu'il les reçoit plutôt? Ça, c'est un. Nous prenons les cas des frais de fonctionnement. Je voudrais seulement dire que nous avons ici le
Nicolas, vous voulez bien vous résumer parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Résumez-vous. Alors, finalement.
Oui, c'est tous ces mots-là qui sont quelquefois à la base du niveau de l'enseignement que nous connaissons actuellement. Moi, je pense que de voir les manuels, oui, enfin, tu vas l'utiliser, mais cet enseignant-là, quel est son état d'esprit quand il lance la salle de l'enseignement? C'est ça que Papa Fabien pourra au moins voir, soit négocier avec le ministre, comment faut-il trouver des solutions pour que l'enseignant soit comme l'enseignant d'antan. Voilà.
Merci, Nicolas Mabila, vous appelez de Kinshasa. On va se rendre en Mahdi, en province orientale, pour accorder la parole à Allonger le Nez. Allonger le Nez, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour aussi à tous les invités de la radio Okapi à partir de Mahdi.
On vous écoute, quelle est votre question?
Ma préoccupation, parce que nous avons découvert ça aussi dans l'enseignement, moi je suis le professeur à l'Institut Okazo, dans le de Mahdi,
oui.
J'ai trouvé que les grands problèmes qui baissent le niveau de l'enseignement secondaire, primaire et professionnel, permettez-moi, c'est d'abord le non-paiement des enseignants. Ici, nous avons un système. Je ne sais pas si cela se trouve aussi par ailleurs. On parle de MC. Des enseignants qui sont appelés MC, qui ne sont pas payés. Il y a aussi multiples enseignants qui ne sont pas mécanisés par-ci par-là dans les écoles. Maintenant, il y a des écoles qui sont mécanisées et payées. On les paye. Et ils sont bien saisis, ils sont bien ravitaillés, bien motivés pour aller faire le service. Alors, voyez-vous un peu l'état de situation. Il y a automatiquement des enseignants qui ne sont pas rémunérés. Il y a des enseignants qui sont appelés MP, il y a des enseignants qui sont bien payés. comment voulez-vous maintenant les enseignants qui sont un peu plus bien enseignés, les enfants? Comment voulez-vous que les enseignants qui ne soient pas payés, qui ne soient pas mécanisés, puissent aussi bien payer les enfants? Je vais un peu vous faire une petite comparaison.
Rapidement,
Frontière avec oui. Les pays d'Ouganda.
Oui.
En Ouganda, nous voyons qu'effectivement, les enseignants sont très bien payés. On peut alors voir automatiquement la qualité de l'enseignement que les enseignants fournissent maintenant aux enfants. Alors, quand l'éditeur parle, je ne sais pas, c'est l'affaire de comprendre. Comment il faut comprendre verbalement? Il faut automatiquement que l'État puisse faire de mieux pour d'abord payer les enseignants.
Alors, Roger Lenné, pour vous, le problème réside hein, sur... il faut bien payer les enseignants pour qu'ils soient bien motivés et bien enseignés, ce qui pourra booster la qualité de l'enseignement. Merci. Allonger le nez, nous rappelons que...
Non, je n'ai pas encore terminé, papa.
Nous allons dire rapidement.
Parce que nous ne comprenons pas le système de gouvernement congolais.
Oui.
Et nous sommes automatiquement de meilleurs parleurs, mais de mauvais faiseurs. Aujourd'hui, nous appelons automatiquement l'enseignement à se rendre au service et bien enseigner. À l'heure que vous parlez, moi, je suis un enseignant qui... Je suis rentré à l'école, maintenant, je passe mes moments de vacances.
C'est ça votre problème. Vous avez compris. Il parle vraiment avec passion parce qu'il est enseigné et qu'il vit ce problème pour lui de ne pas être payé. C'est vraiment une des causes majeures qui fait que la qualité de l'enseignement puisse décliner. Ah, monsieur Fabien, vous êtes là-haut. Vous êtes directeur professeur de l'EPSP King. Ouais, vous avez suivi toutes ces réactions et préoccupations des auditeurs. Vous avez entendu. Le député qui a parlé dit comment elles sont organisées ces enseignements en langue et puis on est revenu à plusieurs fois sur le problème de ce qu'on appelle des enseignants non payés dans les MP. Il y a quelqu'un qui a évoqué les cas de délabrement des écoles qui pensent aussi que cela peut contribuer à la baisse de la qualité de l'enseignement, également le poisonnement des écoles privées.
Merci beaucoup. Je pense que notre ami doit être à l'aise. La mise en place du projet enseignement en langue nationale ne signifie pas que désormais il n'y aura plus d'enseignement en français. Je pense que la langue française demeure la langue d'enseignement dans notre pays. Mais néanmoins, il avait été constaté que un enfant en primaire qui apprend quelque chose dans sa langue maternelle l'apprendrait mieux que celui à qui on doit apprendre à une autre langue. Le temps pour lui de maîtriser la langue et le temps pour lui d'intégrer des compétences en cette langue-là, on perdait beaucoup plus de temps. Mais avec ce système, les études ont été menées, les contributions, les expériences par rapport à d'autres pays ont démontré que celui qui apprend le premier pas en langue nationale, en langue du milieu, n'est-ce pas, il acquiert beaucoup plus rapidement des compétences et facilement des compétences que celui qui l'apprend à une autre langue. Il y a l'ami qui a aussi évoqué la question par rapport aux infrastructures scolaires. Je pense que cette situation, aujourd'hui, ne peut même plus faire objet de débat. Tous les parents, tous les amis enseignants ont suivi le vaste programme que le gouvernement actuel a lancé par rapport à la construction de plus ou moins 1000 établissements scolaires, de 100 milliards de francs congolais qui ont été versés par le gouvernement sur fonds propres pour construire des écoles, et ces écoles sont déjà visibles à gauche, à droite. Dans la ville proche de Kinshasa, quand vous circulez, vous voyez des écoles en train d'être construites. Et après la construction, il y aura la phase de la réhabilitation. Donc là, je pense que c'est un problème qui est déjà résolu. Il est en train de forcer une porte qui est déjà grandement ouverte. Il doit être calme, qu'il observe, qu'il voit ce qui se passe. Il n'y aura plus d'école délabrée. Les autorités, le gouvernement nous a promis qu'il n'y aura plus d'écoles délabrées. Soyez-en rassurés que les preuves sont là. et les paix sont en train d'être construites. Par rapport aux classes des écoles primaires, qui étaient des maisons, qui ont été transformées en écoles, les enfants se tournent les dos, les mêmes enseignants qui œuvrent dans, un même enseignant qui œuvre dans une classe de sixième, œuvre dans une classe de la cinquième année, je pense que ce sont des cas isolés, parce que nous avions un problème par rapport au nombre d'inspecteurs. Mais le gouvernement venait de remédier à ces problèmes. Nous sommes en train de former, maintenant où je vous parle, dans toutes les provinces, des inspecteurs. On a plus de 2000 ou 3000, je n'ai pas le nombre exact d'inspecteurs qui ont été formés, mais les inspecteurs, dès la rentrée scolaire, les stagiaires seront sur le terrain, nous aurons beaucoup d'inspecteurs et ce genre d'école vont disparaître d'elles-mêmes. Parce qu'à chaque instant, il y aura un inspecteur qui viendrait voir. Et dès qu'il se rend compte que les conditions de fonctionnement, plutôt les conditions dans lesquelles cette école fonctionne, ne répondent pas aux normes, l'inspecteur est en droit de prendre des mesures préventives qui peuvent aider, n'est-ce pas, l'État que nous sommes, les pouvoirs organisés que nous sommes, de prendre des mesures qui s'imposent. Notre ami a évoqué, il insiste sur le fait que on ne peut pas avoir une bonne qualité de l'enseignement si les enseignants ne sont pas bien payés. Moi, je pense que je pense qu'il doit essayer de lire l'histoire.
Ça les démotive.
Il est en congé, il n'a pas d'argent, et de suite. J'ai compris. Mon collègue enseignant, il est enseignant, moi je suis enseignant de carrière. Il doit se souvenir de ce qu'a été l'enseignant hier. Des progrès énormes sont en train d'être réalisés par les gouvernements qui sont en place, qui sont les gouvernements qui sont en place. Il y a des efforts énormes qui sont en train d'être consentis. Vous savez, la vie de l'enseignant vient de loin. L'histoire vient de loin. Moi, j'ai été enseignant. J'ai vu comment la femme d'un collègue enseignant était en train de mourir à cause de 5000 francs, de 5000 zaïrs à l'époque. 5000 zaïrs, la femme en train de mourir, elle laisse un testament pour dire mais ma famille ne tenait pas rigueur à mon mari. Je suis mort, j'ai aimé.
C'est aujourd'hui une situation différente. C'est probant,
mon frère, monsieur le journaliste. L'enseignant en est conscient, l'enseignant congolais en est conscient que ce gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Vous savez, je ne peux pas donner les montants. Nous avions, nous, en tant qu'enseignants, j'étais gradué à l'époque, quand j'ai commencé l'enseignement. J'avais un salaire qui ne représentait même pas une bouteille de Coca-Cola. Quand je prenais une bouteille de Fanta au kiosque de l'école, comme je prends en termes de dettes, une bouteille de Coca-Cola, à la fin du mois, je n'avais plus droit à quelque chose. Donc, mon salaire,
je suis parti avec
cette bouteille de Coca-Cola que j'ai consommée. Quand je consomme une bouteille de Coca-Cola, c'est tout mon salaire qui était absorbé.
Mais dites-nous le prix du
alors, aujourd'hui, laisse-moi voler, monsieur le journaliste. Il faudrait que l'opinion soit éclairée.
Les efforts, il faudrait comprendre, c'est pas bien. On va parler des efforts, on est bien d'accord, mais parler des efforts et de la réalité,
c'est pas la réalité, c'est lié. Nous n'allons pas, c'est comme disait le premier ministre quand il est venu des États-Unis,
oui.
Même quand un enfant d'un milliardaire, on le met au monde, on ne va pas le pomper le même jour pour qu'il puisse commencer à marcher.
Les frais de fonctionnement
sont octroyés dans toutes les écoles. À l'intérieur du pays là où la gratuité a commencé,
oui.
Ils ont chaque fin du mois de l'argent. Quand les salaires sont versés, les chefs d'établissement ont de l'argent pour prendre en charge le fonctionnement de l'école. Moi, je suis un ancien préfet. Lorsque je dois évaluer les besoins réels pour le fonctionnement d'une école primaire, je calcule ce que l'État donne, c'est amplement suffisant.
Voilà, c'est alors, amplement suffisant. Mais c'est pas bien.
Alors, par rapport.
On est vraiment. On comprend qu'il y a beaucoup à dire par rapport au niveau de l'enseignement, mais. comment vous expliquez-vous à votre niveau, regardez tous les problèmes qu'on a évoqués, les taux faibles des réussites par exemple cette année, la cause majeure, par rapport à tous les problèmes qu'on a évoqués, et qui pour lesquels il faut avoir, la cause majeure pour laquelle il faudra vraiment doubler les efforts, hein, pour, voilà.
Non, dans la plupart des cas, ce sont des paramètres exogènes, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement.
Oui.
Lorsque les enfants échouent en masse,
oui.
Parmi les éléments qu'il faut considérer,
oui.
C'est le manque, n'est-ce pas? C'est le manque de confiance chez les enfants et chez les chefs d'établissement. Certains chefs d'établissement.
Il faut crier.
Vous comprendrez que vous comprendrez que les enfants ont très bien préparé, ils ont très bien étudié durant l'année. Et à la fin, on leur dit, écoutez, il y a un examen, il y a des examens qui circulent, qui sont vrais, il y a telle série,
et il faut
de se concentrer pour répondre. Ils ont des compétences. Je vous dis, ils ont des compétences. Moi, j'ai vu des enfants dans des salles d'examen, en train de très bien travailler, mais à la fin, ils se disent, non, il faudra que je puisse prendre ce que l'ami a pris parce que ça vient de l'extérieur.
Ici,
vous comprenez? Donc,
voilà.
Il ne faut pas du tout dire que, comme les enfants n'ont pas très bien réussi à l'examen d'État cette année, et que le niveau a trop baissé. Non. Là, moi, je m'inscris en faux par rapport à cette démarche.
Au contraire.
Tout à fait. Allez-y,
bien au contraire.
Bien au contraire. C'est un élément important qui va davantage nous aider à évoluer, à recadrer les choses. N'est-ce pas? Les chefs d'établissement, maintenant, ont compris que désormais, on ne tiendra plus compte de tout ce qui circule, tout ce qui est produit, tout ce système produit à la victoire. Hein? On ne tiendra plus compte de ça.
On
va travailler pour réussir.
Et des efforts seront également fournis dans ces secteurs. Mais ce soit bien, vous qui êtes là, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes directeur provincial de l'EPSP Kinouest et vous étiez notre invité pour parler de comment relever le niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Merci. À une prochaine occasion.
Merci. Il faudra tout forcément qu'on ait beaucoup plus de temps.